French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
On amasse dans le système français une culture, une connaissance qu'ils n'ont pas du tout dans le milieu américain. Et ça les surprend beaucoup. Le fait que je pouvais citer comme ça des lignes de poètes, d'auteurs, tu vois, c'était hyper impressionnant pour eux. Alors qu'aux États-Unis, c'est le côté créatif, c'est le côté ton avis est important. Ce qui était très surprenant pour moi, c'est-à-dire que nous, on lisait voilà, des livres, même en doctorat, tu vois. On lisait des livres de gens qui avaient reçu le Pulitzer Prize ou le Bancroft, tout ça. T'avais des étudiants qui te disaient « Oh ben là, je trouve que franchement, c'est un peu nul. Cette page-là, vraiment, j'aime pas du tout. Puis je pense que la méthodologie est pas bonne, là, vous voyez. Puis alors quand même, la prose est lourde. » Puis moi, je me disais « Mais ça va, les gars, là.
Mais qui suis-je pour
dire ça, tu vois ?» Mais c'est ce qu'on attend. Mais vraiment, c'est la grande différence, tu sais, que moi, je vois. C'est le fait que ton avis, on te demande ton avis, on te laisse le donner et ton avis est important.
Mais c'est de la chance, rien de plus. Oula, je suis loin d'être expert. Il y a dû avoir une erreur de casting, ils savent pas vraiment qui je suis. Est-ce que ces phrases vous disent quelque chose ? Si oui, il y a de fortes chances que vous aussi, vous souffriez ou que vous ayez souffert à un moment dans votre vie du fameux complexe de l'imposteur. Et c'est justement un des thèmes que nous allons aborder en profondeur avec le French Expat de la semaine, Tristan Cabello. Dans cet épisode, Tristan partage avec nous son parcours académique, ses expériences professionnelles aux États-Unis et surtout ses réflexions sur la différence culturelle à l'université entre la France et les États-Unis. Et vous l'aurez compris, on parle pas mal de confiance en soi. Dès son lycée, Tristan Cabello est attiré par les études afro-américaines, une discipline qui captive son intérêt et qui a influencé la suite de son parcours. Il est profondément touché par la musique hip-hop et le mouvement Black Power des années 90, des sujets qui ont résonné avec sa propre expérience et celle de ses proches. Tristan poursuit ses études d'anglais en France et développe une passion pour l'enseignement de la civilisation américaine et en particulier afro-américaine. Et c'est ainsi qu'une professeure à lui, une américaine installée en France, qu'elle plante la graine. Et si il allait voir aux États-Unis justement comment ça se passe ? C'est ainsi que Tristan décide de partir passer un an aux États-Unis et qu'il s'installe dans la petite ville de Kalamazoo, dans le Midwest américain. Tout de suite, il s'y sent chez lui, mais vous allez voir, ce n'est que le début de l'histoire. Aujourd'hui, ça fait presque 20 ans qu'il habite aux États-Unis. Il a vécu dans le Midwest américain, à Washington DC et aujourd'hui à Harlem, à New York. Et ensemble, on discute de l'impact culturel et de notre identité à l'étranger. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, ceinture, je vous embarque avec moi à Harlem, New York. Bonjour Tristan.
Bonjour Anne-Fleur.
Bienvenue de nouveau dans French Expat et merci beaucoup de prendre le temps de me parler. Si tu te retrouvais dans un bar ou un café, je ne sais pas, rempli de Français vivant à l'étranger, par exemple là, t'es dans le Queens, c'est ça ?
Harlem.
Harlem, t'es à Harlem. Comment est-ce que tu te présenterais ? Voilà, tu peux t'adresser directement à eux.
Ouais, et ça moi, c'était c'est une bonne question. Et tu sais, cette question, elle est restée avec moi pendant assez longtemps
c'est
après.
C'est vrai ?
Parce qu'en fait...
Qu'est-ce que j'aurais dit ?
Bah, c'est un truc d'expat, ça. Mais tu sais, par exemple, quand je me présente... Comme je me présente avec des Américains quand je suis ici, Une des premières choses que je dis, c'est vraiment que je suis français. C'est une des premières choses que je dis. Et quand
en
je
fait, tu perds une de tes originalités quand tu parles à des Français.
Et que, non, mais quand vrai. Je suis en France aussi, moi, je dis, une des premières choses que je dis si je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est je suis français, mais je vis aux États-Unis. Et depuis longtemps. Et j'ai parlé à beaucoup de gens, beaucoup d'expats depuis. Et en fait, la même chose revient. C'est que vraiment,
ouais, c'est intéressant.
Voilà, c'est nos deux identités
nous définit,
qui nous définissent.
D'une certaine manière.
Voilà.
Alors là, vous vous demandez peut-être, mais de quoi parle-t-il ? En fait, je vous explique très rapidement, nous avons enregistré plus d'une fois cet épisode. Et en fait, la première fois, il s'est passé un truc un peu dingue, c'est que tout mon quartier a perdu le courant. Et qui dit pas de courant, dit pas d'ordinateur, pas de connexion Internet. Donc bref, tout a été coupé et on a dû recommencer. Heureusement, on n'était pas très très loin, mais nous avons donc dû recommencer depuis le début et donc reprendre les présentations. Allez, on y retourne.
Je suis Tristan, je suis français et puis bon, j'ai quelques passions dans la vie qui sont l'histoire, qui sont la musique, qui sont la politique. Mais voilà, en général, je mets jamais vraiment l'emphase sur mon travail. Ouais, c'est pas du tout ce que je fais. Ouais.
Parlons de ce Tristan. Comme tu le disais, ça fait un moment que tu habites aux États-Unis. Ça fait combien de temps que tu es installé
Et ça va faire, en full time, ça va faire 15 ans maintenant, puisque je suis arrivé, donc, ou même un peu plus, tu vois, parce que je suis arrivé en 2005.
Ah, donc presque 20 ans même.
Ouais.
Incroyable.
Et donc, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Alors, j'ai vécu dans plein d'endroits. J'ai vécu à Chicago, j'ai vécu à Atlanta, j'ai vécu à Washington. Et puis là, maintenant, j'habite à New York. Et voilà. Donc, ça fait à peu près 15 ans, 20 ans que j'habite aux États-Unis.
Donc, tu es bien installé. A priori, tu t'y plais. Sinon, tu serais parti voir
ailleurs.
Ouais,
non, c'est un pays qui me plaît beaucoup. Et puis, voilà, en général, c'est toutes ces qualités dont tous les expats parlent, c'est-à-dire le dynamisme, la positivité et puis la bonne humeur. Voilà. Et puis, mais moi, je ne suis pas... les États-Unis, c'est aussi, on en parlera plus tard, c'est aussi l'objet de mes recherches. Donc, j'ai un regard quand même critique sur le pays. Et je ne fais pas du tout partie de ces expats aussi qui sont très critiques de la France. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas parti de France parce que je n'aimais pas la France. Voilà.
T'as rien fui.
Je suis venu ici parce que voilà, il y a eu des opportunités qui se sont présentées et qui se présentaient pas en France, mais j'en garde pas vraiment une rancœur par rapport au pays d'origine.
Ouais. T'es pas traumatisé par la France.
Pas du tout, loin de là.
Alors, bah, revenons un petit peu justement sur ta vie d'avant. Peut-être que tu peux nous raconter dans quel coin tu as grandi et comment tu as grandi, parce qu'en fait, ça va jouer, bah, finalement, comme pour nous tous, hein, une grande part dans la suite de ton histoire pour mieux la comprendre.
Ouais, t'as raison. Mais moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle en fait le bassin minier de la Lorraine, donc dans le nord-est de la France. Et comme je t'en avais parlé, voilà, c'est une partie de la France, de France, qui est très diversifiée, qui est très riche de sa diversité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cultures différentes qui se mélangent. Voilà, des gens. Moi, mes deux grands-parents étaient des mineurs de fond. Qui avait donc migré d'Italie pour venir habiter en France. Et voilà, c'est un coin vraiment où tu as des Maghrébins, des Espagnols, des Polonais, des Ukrainiens, qui se mélangent, une grande diversité. Et finalement, tu sais, pas beaucoup de ce qu'on appelle maintenant, alors bien évidemment, dans le temps, on n'appelait pas, on n'y avait pas toutes ces définitions-là, mais pas beaucoup de Français de souche. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une diversité, mais ils ne sont pas originaires de France, quoi.
Français de souche, tu veux dire
des Monsieur Dupont, des Monsieur Durand, ouais. Voilà, il y en avait vraiment très peu. Et donc moi très très tôt en fait, et puis c'est quand même un endroit, tu sais, qui est ce que j'aime bien de cet endroit, c'est quand même un endroit qui est, je veux pas dire pas politisé, mais c'est quand même un endroit où la lutte sociale, ça veut dire quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire que très très tôt, moi j'ai été confronté à qu'est-ce que ça voulait dire d'être en grève, tu vois ? Qu'est-ce que c'était qu'un syndicat ? Qu'est-ce que c'était que d'être en grève contre un patron, par exemple ? Voilà. Donc ça, j'ai su très très tôt ce que c'était. J'étais très sensibilisé aux inégalités sociales, aux injustices sociales, et vraiment quand elles sont liées, tu vois, voilà, aux identités de classe, aux identités de race aussi. On parlait pas d'identité de race à l'époque non plus, mais on voyait bien que bon, c'était quand même c'était quand même très connecté. Voilà, c'était quand même très connecté. C'est-à-dire que les quelques Français de souche dont on parlait avant, bon, ils étaient tous et toutes dans des positions un peu de pouvoir quand même. Et puis en dessous, voilà, il y avait d'autres couches sociales qui, en général, quand même, étaient très liées aux identités d'origine, quoi. Et donc voilà. Donc très très tôt, moi, j'étais sensibilisé vraiment à ça. Et...
Toi, ta famille avait des origines ailleurs aussi que la France.
Oui, bien sûr. Moi, ma famille, c'était l'histoire d'une immigration assez typique. C'était des Italiens et des Polonais. Et donc voilà, donc, c'était ce mix-là à la maison. Mais là, encore une fois, voilà, je ne peux même pas te dire que moi, je m'identifie avec la Pologne ou avec l'Italie. Tu vois, c'est-à-dire que pour notre milieu... bon, on était, voilà, l'assimilation à la française, c'était quelque chose. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents, par exemple, ne parlaient pas du tout une autre langue que le français à la maison. C'était,
C'est eux qui avaient émigré.
Oui, tout à fait.
C'était tes grands-parents.
Ouais. Ils étaient nés là-bas et ils parlaient cette langue. Hein. Il y avait des gens qui venaient d'Italie et de Pologne les voir et ils la parlaient très bien, cette langue, mais ils ne la parlaient jamais avec nous. Cette transmission-là, voilà, elle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que moi, je le dis que j'ai des origines italiennes, tu vois, et polonaises, mais je peux pas dire que je connais bien ces cultures. C'est pas... Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, en dépit d'un nom qui a une consonance italienne, voilà, moi, je m'identifie tout de suite comme français, quoi. C'est pas autre chose.
Au cours de sa scolarité et au début de son lycée en classe de seconde, Tristan découvre une nouvelle matière, un domaine de recherche, un truc auquel il ne s'attendait pas, qui finalement attise énormément son intérêt. Il s'agit des African American Studies, les études de la recherche afro-américaine.
Je peux pas te dire que j'ai découvert ce que je voulais faire. Là, j'ai découvert juste un truc, tu vois, qui m'intéressait.
Qui t'intéressait particulièrement.
Alors, bien sûr, c'était les années 90. Et puis, bon, les jeunes garçons de mon âge, on aimait beaucoup la musique qui venait des États-Unis, le hip-hop, le rap, tout ça. Et puis, en même temps, voilà, je découvre à l'école, très jeune... on a une enseignante qui nous apprend Black Power et Martin Luther King et Malcolm X, tout ça. Je crois que c'était même pas au programme, c'était un truc voilà, qu'elle avait ajouté comme ça d'elle-même. Et ça, je trouve ça passionnant. Et je trouve ça passionnant parce que j'ai l'impression que tout ce que Malcolm X nous enseigne, tout ce que MLK nous enseigne, ben en fait, du fin fond de ma petite Lorraine, là, en fait, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses sur ma condition, sur la condition de mes parents, sur la condition de plein de gens qui sont autour de moi.
Tu veux expliquer parce que je pense que MLK, je pense que tout le monde connaît. Je ne sais pas si Malcolm X, tout le monde connaît, qui ne s'est pas forcément intéressé particulièrement aux États-Unis.
Ouais, bien sûr. Ben, bon, MLK, c'est la non-violence dans le mouvement des droits civiques. Bon, Malcolm X, c'est un petit peu différent puisque lui, il prêchait quand même la séparation, c'est-à-dire que les Noirs américains vivent on their own. C'était deux ambiances complètement différentes et puis d'ailleurs qui étaient complémentaires. Mais donc moi, ce que je vois là, c'est qu'en fait, on nous explique, MLK nous explique, Malcolm X nous explique, et puis plein d'autres philosophes, plein d'autres activistes, tu vois, nous expliquent que finalement, voilà, les rapports de classe, de genre, bon, c'est quand même super connecté aussi à l'ethnicité, à la race. Et tout ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau.
On en parle plus facilement aux États-Unis, même encore aujourd'hui, de race qu'en France.
Ouais, même là, je pense que... Moi, je sais pas comment tu te sens, mais moi même encore maintenant, quand je dis
le mot race, on se sent pas complètement à l'aise.
On n'est pas du tout même à l'aise. Et d'ailleurs, quand je suis en France et quand je parle de mes recherches, tu sais, moi, j'emploie le mot identité raciale. Je dis jamais la race, tu vois, c'est super difficile. Mais alors maintenant, bien sûr, ici, bon, c'était quelque chose, c'était même quelque chose chose d'un, même d'un peu daté, c'est-à-dire qu'on en parle depuis tout le temps. Ça fait partie des fondements du pays. Mais donc, on me présente donc à ces fameuses African American Studies, et moi je trouve ça passionnant, tu vois. Et là, c'est le début d'un truc. Je continue de lire, tu vois, je continue de m'informer. Puis alors à l'époque, bien sûr, tu sais, t'as pas Internet, t'as pas tout ça, donc on va aux bibliothèques, on va aux CDI, tu sais. Et donc c'est ça que je fais, quoi. Je me documente. Et puis après, quand vient le moment de faire des choix pour mon orientation, comme on dit, voilà, moi je fais Hippocagne-Cagne en France. Et puis après, je vais à la
donc les prépas littéraires.
Les prépas littéraires, voilà. Et bon, comme chacun sait, voilà, les places pour Normal Sup sont très très chères. Comme il fallait s'y attendre, j'échoue au concours. Et puis donc je vais à la fac, et je vais à la fac d'anglais à Strasbourg. Et je sais très bien, je sais tout à fait que en m'embarquant là-dedans, je sais tout à fait ce que je veux faire. Et là, je le sais dès le bac, hein, que je veux enseigner les États-Unis à l'université. Et que je veux enseigner
les États-Unis
spécifiquement. En France, on appelait ça la civilisation américaine, et spécifiquement la civilisation afro-américaine. Ça, je sais très tôt, et je sais que c'est
hyper précis comme projet.
Ouais. Enfin, je sais pas, parce que tu sais, c'est vrai que je rencontrais des gens en fait en prépa qui me disaient des trucs beaucoup plus précis que ça.
Okay.
Et moi, je me disais, bon, tiens, est-ce que je sais vraiment, quoi? Non, mais quand même, c'est vrai que dès le bac, je sais assez bien, ouais, dans quelle direction je veux aller, et je sais que c'est ça ma passion, quoi.
Et à ce moment-là, est-ce que tu sais que tu vas le faire à l'étranger? Ou est-ce que, comme tu dis, c'est pas super enseigné en France. Est-ce que tu dis que voilà, c'est peut-être l'occasion d'essayer de faire ça en France aussi?
Quand tu as la fac d'anglais en France, on recommande toujours de passer un an en Angleterre, aux États-Unis. Bon, moi, comme je voulais me focaliser sur les États-Unis, j'ai choisi d'aller aux États-Unis. Et là, j'y vais. Alors, si je me souviens bien, c'est en 2001. C'est la première fois que je viens passer 9 mois dans un petit campus du Michigan, qui est situé donc entre Chicago et Detroit. Ça s'appelle Kalamazoo. Alors, moi, bien sûr, avant de voir cette annonce, je ne savais pas du tout ce que c'était Kalamazoo, tu vois. Et donc, j'arrive à Kalamazoo, je suis pris, puis j'arrive à Kalamazoo, et là, c'était un truc super parce que en fait, on était complètement intégrés dans le campus,
dans la vie universitaire.
Local, en plus, c'était ces petits. Donc, alors, on appelle ça aux États-Unis
les villes campus.
Voilà, on appelle ça aussi les liberal arts colleges ici. Et donc, ces petites facs. Ça ressemble plutôt à des grosses high schools, à des gros lycées en fait en français. Mais c'est ces tout petits colleges où tu vois, 1700 étudiants, 1500 étudiants, gros maximum, et où les étudiants vivent bien sûr sur le campus, où tous les profs connaissent les étudiants, les profs sont là tout le temps.
Comme dans les films.
Voilà, c'est un truc de film, quoi. C'était, il faut le dire, c'était quand même paumé en plein milieu du Michigan, donc tu restes là, quoi. Mais en fait, t'as tout sur le campus, et donc c'était vraiment exceptionnel, quoi. Mais surtout, là, ce que je découvre, ben, c'est l'ambiance des universités américaines, quoi. C'est super choquant, en fait, quand t'arrives de France, parce que c'est-à-dire tout le monde disponible. Les professeurs sont là, on peut aller toquer à leur porte, et puis on peut parler d'un livre qu'on a bien aimé. Les classes sont toutes petites. Il n'y a pas des classes comme j'étais à la fac,
des gros amphis,
de 300, ça n'existe pas. Il y a des classes, au maximum, c'était 12 par classe, tu sais.
Ah, waouh, c'est hyper privilégié comme condition.
Oui, et puis voilà, puis t'es dans un groupe.
En
cercle, c'est des discussions, tu sais. On te demande toujours de donner ton avis, même ton avis est valorisé, tu vois. Et puis après, sur le campus, bah, t'as tout le reste, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'activités, tu peux faire vraiment plein de choses. Et donc, bon, moi, vraiment, à l'époque, tu vois, je pouvais prendre des cours. Alors là, j'ai pris plein de cours en African American Studies, en Gender Studies, en toutes ces matières, en fait, qu'on n'enseignait pas vraiment en France. Et je découvre plein de choses, et puis tu découvres la vie quand même aux États-Unis et à quel point... Donc voilà, c'est-à-dire que cette liberté qu'on ressent quand on est ici, bon, c'est pas un mythe, C'est-à-dire qu'on la ressent quand même, voilà, sur le campus, moi je la ressentais.
Sous quelle forme? Comment ça?
Je sais pas, c'est des choses toutes simples, tu sais, c'est-à-dire que rien que la manière de s'habiller pour aller en cours, ou rien que le fait que dès le départ, si tu veux, il y avait plein d'identités sur le campus, c'est-à-dire il y avait une communauté LGBT qui était énorme.
Dès 2001.
Dès 2001, tu vois, et il y avait des gens qui s'identifiaient comme trans, mais moi j'avais jamais entendu parler de tout ça, tu vois.
Ou pas de manière si visible.
Pas de manière aussi visible, mais ouais. du tout. Et puis voilà, toutes les religions, voilà, il y avait quand on parle, nous, de notre fameuse laïcité, tu sais, bon, bah, moi, voilà, au campus, il y avait des femmes voilées. Tout le monde s'en fout. Et tout ça, c'était complètement nouveau, tu vois. Alors, bien sûr, moi, tu vois, j'ai 21 ans à l'époque, donc je suis aussi facilement impressionnable. Mais tout ça, il y a quand même une atmosphère. Et puis, et la liberté universitaire, quoi. C'est-à-dire que moi, jamais je me suis entendu dire par un prof là-bas, alors que, bon... D'accord, j'avais fait fac d'anglais, mais tu vois, bon, c'est pas comme si je maîtrisais l'anglais académique super à 21 ans, et même d'ailleurs parler anglais, mais je crois que je n'ai jamais reçu une critique. C'est-à-dire que toutes les critiques étaient de toute façon empaquetées par « mais c'est super ce que tu fais, mais alors là, tu vois, voilà comment t'améliorer. »
Le fameux sandwich américain.
Exactement, tu vois, c'est-à-dire que...
Le sandwich,
que, ouais,
je confirme.
Le sandwich, c'est, voilà, c'est, ça c'est super ce que tu fais, mais en même temps, j'ai jamais autant... progresser, tu vois, c'est-à-dire que... Et le tout, tu vois, dans la bonne humeur. On n'était pas stressé d'avoir une mauvaise note, etc. Bon, parce que voilà, si tu fais le boulot, bon, tu reçois une mauvaise note, il n'y avait pas de redoublement, tu vois, moi, j'avais ouais. jamais vu ça.
Mais t'as pas la même relation aux études, quand même, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, je veux dire, déjà, alors, ce n'est que mon expérience, mais bon, on approche des 300 épisodes là dans French ouais. Expat, donc on a quand même pas mal de monde qui est passé au micro. Et j'ai l'impression, tu vois, genre en France, alors tu peux bosser pour le vin, mais le vin, dans son essence, le vin sur vin est inatteignable en France. C'est un espèce d'idéal
ouais, ouais.
Qui est conçu pour qu'on n'y arrive pas, pour que ce soit jamais parfait, qu'on puisse toujours faire mieux. Donc en gros, si tu arrives à 10, t'es content. Alors qu'aux États-Unis, tu travailles pour le A. Enfin, c'est une approche assez différente. Comme tu le dis, t'as pas vraiment... Enfin, c'est pas que t'as peur de tes profs en France, mais t'as une relation très... beaucoup plus stricte, un peu plus à verbe.
Ouais, non, mais moi, je suis d'accord.
Et ici, c'est vrai que tu dis t'as les office hours, tu échanges, tu donnes ton avis.
Ah, mais complètement. Puis même dès que tu comprends pas trop un devoir ou une disserte que tu dois écrire... tu vas en parler. Toi, tu montes le brouillon au prof et le prof va te dire là, il faut changer, là, il faut remettre. Toi. Même de toute façon, bon, maintenant, moi qui suis dans le business, j'allais dire depuis 10 ans maintenant, bon, je sais très bien que la plupart des gens vont recevoir une bonne note à la fin. Tu vois. C'est même pas pour ça qu'on travaille de toute façon. Mais le processus d'apprentissage, il est complètement différent. C'est-à-dire
la co-construction
que,
un peu aussi.
Mais tout à fait. Et puis surtout, tu sais, moi mais même quand j'avais 21 ans, c'est-à-dire c'était ce qui était important, c'est que des fois, tu sais, même en classe, moi je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien apporter à cette conversation? Qu'est-ce que j'y connais, moi? Et les profs me disaient tout le temps, mais toi, en tant que Français, comment tu reçois ça? Comment tu lis ça? Comment tu... et tout ça, ça les intéressait, tu vois. C'est-à-dire les différents points de vue, simplement le fait, tout simplement un fait, tu vois, biographique, quoi, le fait que j'étais français, ça ajoutait quelque chose, et c'était valorisé. Tu vois, c'était valorisé dans mon expertise. C'était très, très surprenant au début.
On parle de 2001. Il y a un truc quand même qui a quand même beaucoup modelé la suite de l'histoire contemporaine américaine, c'est les attentats du 11 septembre qui ont eu lieu cette année-là. Toi, ton expérience, c'était avant ou après?
Oui, bah maintenant que tu me rappelles ça, en fait, moi, mon expérience, j'étais censé partir, donc je crois, le 13 ou le 14 septembre. Et on a dû donc décaler, parce que pendant quelques ouais. semaines,
ils ont tout bloqué.
Ouais, on a tout bloqué. Là aussi, peut-être que le fait que j'avais 21 ans et que j'étais très, très excited d'être aux États-Unis, peut-être que ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Mais c'est vrai que les étudiants en parlaient beaucoup. C'était un énorme choc pour tout le monde. Bon, moi, je dois te dire que je vivais ma petite vie à l'époque et que, bon, bien
ouais,
sûr,
c'était
choquant, tu vois, c'était choquant. Mais je me rappelle que... Une des toutes premières choses que la personne qui est venue me chercher à l'aéroport là, m'avait dit, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais vu ça. qu'elle avait eu vraiment très très peur. Bon, alors que voilà, elle habitait à des kilomètres de New York. Mais ouais.
Et alors, c'est quoi, 9 mois? Enfin, en gros, tu fais une année universitaire, du coup, là-bas?
Je rentre donc l'été d'après. Je rentre l'été d'après, mais avec, finalement, la ferme intention de revenir.
C'est ça, ce que j'avais demandé, dans quel état d'esprit tu quittes le pays?
Je voulais pas du tout rentrer en France. Ouais, je sais pas, j'ai lu plein de livres, tu sais, après, sur l'expatriation, tout ça, et... Tu sais, il y a des genres d'hormones, de chemicals qui sont libérés dans le cerveau quand tu expérimentes, tu vois, un grand choc comme celui-là, tu vois, c'est-à-dire un changement de culture et qui est vraiment très positif. Et il y a une forme d'addiction, tu sais, après. Et j'y pensais tout le temps. Et dès que je rentre, donc je me réinscris à la fac pour faire une maîtrise, mais mon objectif, c'est de revenir aux États-Unis. Je sais déjà ce que je veux faire. J'y m'y étais pris un peu tard. J'avais déjà essayé quand j'étais à Kalamazoo, mais je m'y étais pris très tard. C'est de faire des recherches, de faire une thèse, peut-être. Enfin, de faire des recherches aux États-Unis. Et alors là, durant cette année de maîtrise, j'ai une prof qui me dit mais pourquoi vous êtes bon? Déjà, elle me dit vous êtes bon. J'étais hyper choqué parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça en France. Elle me dit vous êtes bon, pourquoi vous tentez pas votre chance pour une thèse aux États-Unis? Et franchement, bon, alors moi j'y crois pas trop. Je me dis bon, j'allais faire un échange, tu sais, pour pouvoir faire des recherches, mais une thèse dans une grande faculté américaine qui...
Ça te paraissait inatteignable?
Ah mais complètement. C'était dans une grande... En plus, elle me dit des noms du genre Yale, Harvard, tu sais, je dis bon...
Ouais, des trucs quand en France, t'es...
Voilà, enfin, t'es... moi je me dis tout de suite, bon, elle est gentille, mais bon, quand même, je suis pas sûr de ça, voilà. Mais moi, je connaissais pas bien le système. Et en fait, en une heure, tu vois... Il y a quand même des connexions comme ça avec des profs qui changent la vie, tu vois. En une heure, elle m'explique tout. Si vous êtes accepté, vous aurez une bourse. Et cette bourse, vous savez, ça vous permet de vivre. Puis elle me parle de montants qui me paraissaient, moi, faramineux, tu sais, à l'époque. C'est-à-dire,
parce que c'est pas le même coût de la vie.
Tout ouais. À fait, ouais, c'était ça aussi. J'avais pas pris ça en considération, mais bon, voilà, elle me parle de 2000-2500 euros par mois, tu vois. Alors je me dis, mais bon, c'est incroyable. Et puis elle me dit, puis elle me donne des conseils, alors des conseils vraiment, voilà, pour la candidature. Elle me dit, parlez de vous, dites où vous avez grandi, les études que vous avez fait, parlez de ça. Elle me dit surtout ne dites pas que vous voulez vraiment faire un sujet très précis en thèse, parce que vous savez, vous aurez des cours, la thèse ça marche pas comme en France, vous aurez des cours et puis il faudra que vous prenez des cours et puis après il faut que vous décidiez de votre sujet de thèse, mais vous décidez pas tout de suite. Elle me dit voilà, elle me donne des conseils pour tous les examens qu'il y a à passer. Puis elle me donne des conseils aussi, elle me dit surtout les gens qui vous écriront des lettres, dites-leur bien qu'il faut qu'ils écrivent au moins 2-3 pages. Voilà, et pas un petit truc genre j'atteste que Tristan Cabello est un bon élève, voilà. Et
contactez-moi
si vous avez, voilà. Il faut ouais. En faire des tartines, tu vois. Ouais.
Comment ça se fait qu'elle connaissait ce système si bien? Elle avait étudié aux États-Unis?
Oui, elle avait fait une thèse aux États-Unis. En fait, c'était une Américaine qui s'était mariée à un Français, je crois, et qui avait donc fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle avait... Mais elle avait étudié aux États-Unis. Et donc moi, j'envoie mes petites candidatures, mais vraiment, vraiment sans y croire. Tu sais, vraiment, j'y croyais pas du tout. En plus, je choisis.
Pour lui faire plaisir.
Ouais, mais en plus, je choisis les facultés, là où je voudrais vivre. Tu sais, donc tu sais, NYU, Columbia, Chicago, Northwestern, UCLA, Emory, tu vois. Bon, que des facs en plus, voilà, hyper cotées, tu vois, dans mon... Et puis, bon, il faut pas oublier que tout ça, ça coûte cher, hein, parce que les applications aux États-Unis, voilà, c'est $100 par chaque application,
ça,
tu vois.
Ça chiffre vite. Faut être sélectif, quoi.
Voilà, et puis à l'époque, il fallait les envoyer par FedEx, etc. Bon, c'était tout un système. Voilà, donc on envoie ça en décembre, et en février, tu commences déjà à recevoir des notes d'acceptation, des letter of acceptance, tu vois. Et j'étais accepté partout. C'était un truc qui était complètement fou. Et là, il y a un truc qui se passe qui est complètement fou, c'est que les facs, en fait, t'invitent sur le campus pour visiter le campus et pour te recruter, parce que bien évidemment, quand t'es pris quelque part, t'es sûrement pris dans 10 autres facs, tu vois. Et donc, ils veulent les meilleurs candidats, et puis donc, ils t'en mettent plein la vue pendant un week-end. Et donc, moi, j'ai passé février-mars de cette année, donc ça devait être 2003, oui. Ouais, donc je passais tous les week-ends, je prenais le train pour...
T'allais aux États-Unis pour le week-end, pour visiter une fac, reprenais ta petite vie.
Et puis je reprenais ma petite vie.
En France, le lundi matin.
Mais et c'était fou, quoi. Et donc, quand c'était dans la même ville, bon, comme Chicago, ils n'étaient pas fous non plus, tu vois, ils faisaient le Prospective Student Weekend. Bon, c'était le même week-end pour Northwestern et Chicago, tu vois. On allait à la moitié un, la moitié à l'autre. Et donc voilà quoi. C'était fou. Je m'attendais pas du tout à ça.
Et puis là, ton expérience, toi, les fois d'avant, enfin tes 9 mois, ton année scolaire que t'as faite aux États-Unis, c'était sur un petit campus dans la campagne. Enfin, c'est aussi hyper différent finalement de ce que tu connais là, ce que t'es en train de visiter.
Ah mais complètement, ça n'a même rien à voir. Ouais. En plus, bon, là c'était undergrad et donc là je rentrais en graduate school, c'est-à-dire j'étais thésard maintenant, tu vois. Ça n'avait vraiment rien à voir. C'était vraiment l'université des grandes personnes là, tu vois. Et puis c'était dans des milieux urbains. C'était dans des grandes villes. Et donc voilà, et moi, mon rêve, c'était toujours Chicago. Parce que moi, je savais que tous les grands noms, tous les grands historiens afro-américains, tous les grands théoriciens de African American Studies, ils étaient à Chicago. Et donc, je décide d'aller à Chicago, tu vois.
Donc, c'est Northwestern et c'est le plus gros programme, en fait, d'African American Studies aux US à ce moment-là.
Comme tu le sais, toi, les programmes sont tous classés. Et donc, à l'époque, Northwestern, et je crois encore maintenant, c'était le programme le plus prestigieux, le plus coté pour l'histoire afro-américaine. Et donc, c'était exactement ce que je voulais faire. Et donc là, je me retrouve... Mais je te dis franchement, je pars une deuxième fois, donc, mais avec l'idée que je vais me ramasser complètement pendant la première année, que c'est pas du tout pour moi, que ça sera le niveau sera
ah t'as vraiment
trop haut.
La confiance en toi dur quoi.
Mais c'est à dire que moi je me dis c'est quelque chose, je suis pas au niveau,
c'est une erreur de casting. Mais t'as été recruté partout, comment ça peut être une erreur?
Mais je crois vraiment que voilà, c'est dû au système français à bien des égards, tu vois, et c'est aussi dû d'avoir grandi dans un environnement qui n'était pas très privilégié. Toi, moi, je me dis, tu te sens toujours pas à ta place quand tu es dans des endroits comme
ça. Le complexe de l'imposteur.
Voilà, tout à fait. Ouais. Quoi. Puis le complexe de l'imposteur aussi, c'est quand même hyper répandu dans l'université. Quoi. C'est-à-dire que voilà, tout le monde croit, tous les profs, tous mes collègues. Voilà. C'est le truc le plus...
Encore maintenant.
Ah ouais, carrément. Donc moi, je me dis, on va tenter ça, tu vois, une petite année. Et puis bon, si ça ne marche pas... Peu importe, tu auras eu le temps de faire des petites recherches là-bas et ça ne sera pas perdu, quoi. Surprise, surprise, ça marche. Dès la première année, tu vois, j'adore ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de collègues américains, français aussi, tu vois, qui vont te dire les années de doctorat, c'est les années les plus dures, où je me suis senti vraiment nul, où tout était stressant, tout était angoissant. Alors moi, j'ai adoré. Tu vois, c'était fou parce que moi, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, t'es payé pour lire, pour écrire et puis pour avoir des conversations intéressantes avec les gens. La vie est belle. Là, c'était vraiment super. Donc, moi, le doctorat, ça dure quand même longtemps aux États-Unis, c'est-à-dire que tu prends en général, tu vois, 2 ans de cours, ensuite, tu as 1 an d'examen, quand même, des examens presque tous les 2 mois. Il y a un examen de field, de specialty, qualifying exam, tu vois, il y en a plein. Mm-hmm. Après, dissertation, proposal, defense, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, tu écris pendant 3 ans ou 2 ans ta thèse, tu vois. Et donc, c'est un programme, moi, je l'ai fini, je crois que je l'ai fini en 6 ans, 5, je ne sais plus. Donc, c'est long, mais moi, j'étais à Chicago comment te dire, tu vois, tu te retrouves à dîner avec Kimberlé Crenshaw, qui était la grande philosophe afro-américaine du moment. Tu te retrouves avec des historiens que jamais tu aurais pensé, tu vas rencontrer un jour. Tu as des conférences qui sont là, mais toutes les semaines, il y a quelqu'un d'important qui vient sur le campus.
C'est hyper stimulant, quoi.
Et donc ça, c'est hyper stimulant et vraiment... Voilà quoi, c'est-à-dire que moi, contrairement à beaucoup de mes collègues, j'ai pas du tout fait de dépression pendant mon PhD, tout allait bien, j'étais très heureux, j'étais très content d'aller sur le campus. Alors, en plus, c'était un campus, c'était magnifique, tu vois, avec vue sur le lac Michigan, tu vois. On était...
Bon, dans des bonnes conditions.
Ah mais on était hyper privilégiés, c'est-à-dire que... Et moi, je me rendais pas compte, et là, le côté naïf, tu vois, c'était aussi quand même que je me rendais pas du tout compte que... Northwestern, être dans un PhD programme, tu vois, à Northwestern, c'était quand même la haute classe, tu vois. C'est-à-dire que tous les PhD programmes ne sont pas, n'ont pas les moyens financiers de ce programme-là, tu vois. C'est-à-dire que nous, c'était vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire que moi, je demandais au mois de septembre, tiens, j'ai vu qu'il y a ces nouvelles archives à San Francisco qui sont vachement bien, il faudrait que j'y aille. Ah, ben, pas de problème, Tristan. Tu peux y aller en novembre, on a débloqué l'argent, tu vois, c'était
wow,
toujours
ouais.
Oh tiens, j'ai été accepté à cette conférence, c'est à Miami, on peut y aller, c'est au mois de mars. Ah ben bien sûr, on est très content que tu y ailles. Enfin, tu vois, il y avait toujours il y avait de l'argent, beaucoup, hein, ça c'est, on le voyait bien. Et puis surtout, il y avait de la stimulation, quoi, c'est-à-dire que voilà, ton maître de thèse, si tu réussis, eh bien, il réussit à travers toi, tu vois. Donc, voilà, c'est tout un système qui fait que, bon, on essaye de produire le meilleur de toi.
Tristan fait donc sa thèse à Chicago au cours des 5 années suivantes. Tout ceci nous amène en 2010, l'année de son diplôme. Et à ce moment-là, pour Tristan, c'est clair. L'enseignement, c'est ce qu'il veut faire. Mais retournement de situation, puisque son futur, il ne le voit pas aux États-Unis. C'est bel et bien en France qu'il l'envisage à ce moment-là.
Donc toute l'année 2010, c'est la fin de mon année de doctorat. Et donc cette année de doctorat, c'est l'année où tu cherches des postes. On m'invite sur plein de campus, on me fait des offres, etc. Mais alors là, moi, je découvre aussi naïf que ça peut paraître. Je découvre une Amérique que je connaissais pas bien. Et c'est cette Amérique, voilà, parce que ce qu'on sait pas de France, c'est que voilà, la plupart des facs aux États-Unis et des grandes facs ou même des petites facs, bon, elles sont pas dans des grandes villes comme en France. Elles sont dans des coins un peu perdus. Dans des petites villes, tu vois, même Yale, si tu penses à Yale, bon, c'est dans une toute petite ville, quoi.
Dans le Connecticut, ouais.
Et donc, moi, je découvre cette Amérique que moi, je connaissais de Kalamazoo, tu vois, mais bon, je m'imaginais pas du tout vivre à Kalamazoo, bien évidemment, tu vois. Et là, je me rends compte que, et ça, j'avais pas du tout calculé, eh bien, c'est que les postes, ils sont dans ces villes-là. Ils sont dans des endroits où...
Des college towns,
tu vois, et... Dans des états du centre des États-Unis, tu sais, d'avoir un poste dans une faculté même pas très prestigieuse, mais dans un centre urbain, ben ça c'est le jackpot et ça n'arrive pratiquement jamais. J'ai quand même ces intuitions, tu vois, et je me dis à chaque fois que j'arrive dans ces endroits là, où je suis interviewé, je pose le pied à l'aéroport, je me dis là c'est pas possible. C'est-à-dire que je sais que...
Avant même, je sais
tout à fait que ça ne va pas être possible. Et je rencontre des gens voilà, qui sont adorables et des collègues super, tu vois. Mais alors, en même temps, voilà, je ne me vois pas du tout vivre...
T'as envie d'avoir une vie en plus du travail, quoi.
Exactement. Et c'est très important. Et pour moi, c'est dans un centre urbain, quoi. C'est dans une grande ville. Et donc, moi, je découvre ça et je n'étais pas du tout au courant. Et donc, j'ai pas très envie. Et en même temps, alors, il y a un poste qui, c'est le meilleur poste que je reçois. Et là, mon maître de thèse, mon advisor me dit, là, Tristan, si vous le prenez pas, c'est juste pas possible. Parce que c'est un poste en or.
Il comprendrait pas que tu te jettes pas dessus.
J'avais pas les mêmes envies, j'avais pas les mêmes voilà, valeur peut-être, je sais pas. Mais et donc c'était dans un petit collège, dans un small liberal arts, qui s'appelle Baudouin, qui se trouve dans le Maine. Mais alors là, c'était ce qu'on appelle un contrat en or, quoi. C'est-à-dire que c'était sponsorisé par la Mellon Foundation en African American Studies. Et en fait, on me payait tout simplement pour écrire. C'est-à-dire que voilà, c'était juste pour faire des recherches et je devais
donc,
enseigner.
Tout ce que t'aimes.
Voilà, je devais enseigner un séminaire, toi, c'est tout. Et je me dis, bon, c'est pas très loin de Boston, c'est pas très loin de New York, on va tenter sa chance. Et j'y vais, mais je. Voilà, là aussi, des.
Comme d'habitude, avec une grande confiance en toi.
Ouais, là, j'y vais. Non, mais. Ouais. Enfin, non, bon, là, j'ai quand même plus confiance en moi, tu vois, à la fin du PhD, ouais. Quand même. Mais, là, ça, je me dis, non, là, je me dis plutôt, c'est l'endroit qui va pas me plaire, tu vois.
Ouais. Ouais, tu sens que tu peux l'avoir, donc c'est plus risqué.
Donc, j'accepte quand même et j'y vais. Bon, je, as expected, je déteste cet endroit de tout mon cœur. C'est-à-dire que je. Voilà, c'est-à-dire que. Mais c'est un endroit, voilà, c'est-à-dire qu'il faut aimer tout ce que j'aime pas, enfin tout ce qui me passionne pas trop, c'est-à-dire faire des. Je sais pas, tu vois, faire des excursions dans les bois, tout ça. C'est super pour les gens qui aiment la nature, le Maine, tu vois. Et moi, ben, je préfère être en ville, quoi. Et donc, c'est cette année-là où je me dis, bon, là, il faudrait peut-être rentrer en France, tu vois. Et...
Ouais, si c'est les seules perspectives.
Mais alors, en France, là, je découvre ce système, ce fameux système de qualification aux fonctions de maître de conférence. Et puis, il faut. Et puis, on me conseille aussi, on me dit, bon, mais il faudrait quand même passer l'agrégation pour. Et moi, je sors de, tu vois, de 6 années de PhD, 5 années de PhD. Je me dis, non, mais là. C'est juste pas possible. Et donc, ça. Je crois que même la première fois où je pose ma candidature aux qualifications, je crois qu'elle est rejetée, mais c'est parce que j'ai un peu bâclé tout ce truc. Et bon,
en France, tu veux dire.
En France, ouais. Mais plus tard, je reposerai ma candidature, elle sera acceptée. Disons que passer même 5-6 ans dans un endroit où je me sens pas du tout chez moi, tu vois. Je préférais vraiment rentrer en France, quoi.
Mais du coup, t'es rentré en France ou pas? Ou tu l'envisages sérieusement?
Non, je l'envisageais sérieusement, mais je suis pas rentré. Je suis pas du tout rentré en France. Bon, alors hormis bien sûr les voyages que tu fais, voilà tous les ans en fait. Je suis toujours dans ma quête du boulot parfait aux États-Unis, et il se trouve qu'il arrive. Et donc en 2012. Là, je suis recruté pour. Alors, au départ, c'est simplement pour faire maître de conf, simplement pour faire prof, dans un département de Critical Race, Gender and Culture à l'Université américaine de Washington.
Ah, c'est ouf!
C'est exceptionnel. Alors, moi, j'adore. Bon, à l'époque, j'adorais DC. Bon, alors maintenant, après y avoir vécu quelques années, c'est moins, tu vois. Mais j'adorais Washington. Et puis là aussi, tu sais, ça, c'est ces trucs dont beaucoup d'expats parlent. C'est-à-dire les. Bon, à l'époque, j'ai 32 ans, 31, 32 ans. Et donc, en carrière universitaire, c'est jeune. Et tout de suite, on me donne plein de responsabilités, tu vois. C'est-à-dire que tout de suite, on me demande, tiens, vous voulez pas devenir le directeur du département? Bon, je fais mes preuves, tu vois. Mais tu sais, c'est vraiment venu de nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai eu une rencontre avec le doyen qui me dit... Écoutez, les étudiants vous aiment vraiment bien, vous êtes beaucoup appréciés de vos collègues, on aimerait bien que vous soyez le directeur du département. Ok. Alors moi, tout de suite, bien sûr, bon, voilà, je dis oui, ça c'est une occasion, tu vois, en or. Moi, c'est le département des études américaines et American Studies. Et là, c'est juste génial, tu vois. C'est-à-dire pour un Français, tu vois, d'être directeur du département des études américaines de l'université américaine de Washington.
C'est, enfin,
je me
ouais,
dis, bah, c'était
un peu la consécration.
Voilà, c'était pas trop mal, tu vois. Et puis là j'ai des collègues qui sont juste exceptionnels, tu vois. Vraiment, on est dans un département très très fort. Et puis voilà, je continue mes recherches, je continue d'enseigner, puis j'enseigne que des classes que j'adore, tu vois. D'ailleurs, j'enseigne des classes sur le hip-hop, j'enseigne des classes sur Michael Jackson, j'enseigne des classes sur Race and Sexuality in America, enfin, j'enseigne une classe sur Black Queer Studies, tu vois. En fait, je suis complètement libre d'enseigner ce que je veux. Et tu vois, bon, y a un truc, c'est-à-dire que j'échappe à ce que beaucoup de jeunes profs doivent faire quand ils arrivent dans une grande fac comme ça, c'est-à-dire d'enseigner les grands cours magistraux, tu vois, genre American History, tu vois. Ça, j'avais pas du tout, ouais, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, moi, j'enseigne que des classes que j'adore. Et là, c'est vraiment, voilà.
On voit que t'as encore les étoiles dans les yeux.
Ouais, c'était une très, très bonne expérience. Et donc, je reste là-bas. Ouais, je reste là-bas, 5 ans, je crois. Et alors, je pars parce que là aussi, il y a une autre opportunité qui se présente. Là aussi, c'était un peu out of the blue. En gros, j'ai une collègue qui me dit qu'il y a Johns Hopkins University, donc à Baltimore, mais on a aussi une branche à Washington. Et là, cette collègue me dit on cherche quelqu'un pour diriger un programme de maîtrise. Voilà, j'aimerais bien que tu poses ta candidature parce que je pense que tu serais... Et c'est vrai que j'y pensais, quoi. J'y pensais, je me disais, c'était... Parce que là, j'étais en undergrad à American.
Donc, le niveau bachelor.
Voilà. Et tu sais, moi, je pars encore en niveau licence. Tu sais, quand j'étais... c'est le niveau licence.
LMD.
LMD, voilà. Donc, je pose ma candidature, tu vois, et je me retrouve en grad school. Voilà, donc et c'était quelque chose que je voulais faire, tu vois, depuis, ça me trottait dans la tête, tu vois, et donc c'est venu, il y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup à un moment vers la fin de ma carrière à American, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus envie de faire beaucoup plus de recherche et d'aider des étudiants à faire de la recherche, et donc ça c'est que en grad school, quoi, c'est-à-dire undergrad, en général tu fais pas de recherche, et puis deuxièmement il y avait un truc qui se développait, alors ça c'était bien avant le Covid, mais il y avait un truc qui se développait de plus en plus aux États-Unis, mais c'était mal fait. C'était online teaching. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans ce programme que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment une variété d'étudiants exceptionnels qui font des travaux de recherche vraiment, vraiment géniaux. Et vraiment, le but du programme, en fait, si des gens qui nous écoutent sont intéressés, c'est vraiment d'essayer de préparer les étudiants à faire des études doctorales, quoi. C'est-à-dire, on leur donne vraiment les bases. Et puis après, ils peuvent décider hein, s'ils veulent poursuivre là-dedans.
S'ils veulent continuer ou pas. Et alors, tu as quand même quitté la région de Washington.
Oui. Alors, Washington, que j'ai beaucoup aimé au départ.
Au début, du coup, tu disais.
est devenue vraiment une ville où moi, à un moment, j'ai tout fait. Quoi. Alors, c'est très spécial. Alors, vraiment, Washington, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Je crois qu'il n'y a pas de in-between. Mais ce qu'il faut savoir, sur Washington, ce qui était vraiment très, très dur, c'est le fait qu'on appelle... On dit que Washington, c'est une transient city. C'est-à-dire que les gens viennent pour 2 ans et puis ils repartent, et tu sais,
même quand tu crées des amitiés et tout, tu recommences à zéro.
Voilà, tu recommences, mais c'est incroyable. Et moi, j'avais comme ça, je renouvelais mon stock de connaissances, d'amis, tu vois, mais tout le temps, constamment, tu vois.
Ça peut être stimulant et ça peut être démoralisant aussi.
Ouais, c'est-à-dire, c'est comme je te dis, c'est-à-dire, les deux premières années, c'était très stimulant, puis après, ça devient un peu saoulant, quoi. C'était quand même un peu dur. Et puis, c'est quand même, en anglais, on dirait sanitized, tu vois. C'est quand même une ville, voilà, où la plupart des gens travaillent pour the federal state or les think tanks et ou alors les ambassades, tu vois. Et tu vois, moi, et comme la ville est trop chère, tu vois, en général, les académiques, les universitaires, ils vivent en dehors de la ville. C'était une ville très spéciale, tu vois, et j'ai beaucoup aimé y vivre pendant 2-3 ans, c'était très bien, et les 2-3 dernières années, c'était plus très intéressant pour moi, en fait. C'est-à-dire, c'est incroyable, mais à Washington, j'ai jamais rencontré un artiste, par exemple. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « j'écris un livre, j'écris un roman » ou « je sais pas, je fais de la musique ». C'est pas ce genre de ville, tu vois. vu que mon travail est principalement en ligne, que j'enseigne, bon maintenant j'enseigne plus beaucoup de cours parce que je supervise de la recherche, mais j'enseigne donc 2 cours par an qui sont en ligne. Donc je peux en fait habiter n'importe où aux États-Unis.
Et alors tu as choisi Harlem.
Et ouais, j'ai choisi Harlem et là aussi bah c'était un petit rêve de d'enfant quoi, un petit rêve de gosse quoi, c'était voilà, Harlem, c'était bah c'était New York. Moi en fait, ma première expérience, je l'ai pas raconté, mais c'était je suis venu quand j'étais un peu plus jeune, voilà, en vacances à New York pour visiter avec mes parents. Et ça m'avait toujours attiré, quoi. Et Harlem spécifiquement, parce que voilà, quand tu fais, quand tu étudies l'histoire afro-américaine, bon ben voilà, la moitié de l'histoire afro-américaine, c'est Harlem. J'entame ma 3e année, là, à New York, à Harlem. Alors voilà, bon ben New York, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est l'opposé de Washington, c'est-à-dire qu'ici, voilà, il y a des gens justement qui sont artistes, qui sont universitaires, qui sont qui font plein de choses, quoi. C'est-à-dire que tu rencontres des gens hyper intéressants, tu vois, t'as accès à tellement de choses. Et Harlem, c'est un quartier qui est qui me convient bien, quoi. C'est-à-dire que les gens ont peut-être du mal à comprendre à quel point même si t'es, tu vois, en plein cœur de Manhattan, c'est quand même un quartier qui fait très très village. C'est-à-dire que, et puis pour les Français qui donc écoutent,
pas encore trop gentrifié.
Pas encore trop gentrifié, ouais. Et bah qui commence à se gentrifier, parce que j'allais dire, donc pour les gens qui écoutent, beaucoup de Français qui ont des commerces, restaurants, des caves à vin, etc. Il y en a beaucoup sur Harlem. Et puis toute une communauté francophone d'Afrique principalement. Voilà, moi c'est-à-dire que ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les choses que je fais, c'est-à-dire aller au sport, aller je sais pas au barber, ou alors encore ce matin j'étais me faire vacciner pour le Covid. Bon, tu vas à l'hôpital de Harlem qui est juste là. Bon, tout le monde parle français. C'est-à-dire que c'est incroyable, parce qu'il y a une très forte communauté africaine. Et donc voilà, mon barbeur est burkinabé, tu vois, la nurse qui m'a fait le vaccin, je crois, était ivoirienne, ouais. Tu vois.
Ça, c'est génial.
Et donc, ouais.
Donc une grande multiculture par la francophonie aussi.
Mais carrément, ouais, mais beaucoup. C'est-à-dire que le petit magasin juste en bas de mon building, c'est un magasin qui est tenu par un Français, d'ailleurs un Lorrain, et c'est une cave à vin qui s'appelle Pompette. Il y a beaucoup de Français ici à Harlem.
Il y a un truc que tu as évoqué quand tu racontais ton parcours de manière chronologique, c'est cette confiance en toi, ce complexe de l'imposteur. Et en échangeant tous les deux, avant en fait, d'enregistrer cet épisode, tu me disais qu'en fait, tu avais noté justement pas mal de différences entre les Français et les Américains, en fait, sur leur éducation par rapport à ce sentiment de ne pas être à la hauteur, à la confiance en soi. Est-ce que tu veux peut-être approfondir un petit peu cet aspect.
Voilà, donc moi je parlais beaucoup de donc venir aux États-Unis et se dire bon finalement ça doit être une erreur de casting, on a dû me prendre en PhD, mais bon ça doit être une erreur de casting. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que je vois beaucoup, parce que moi j'ai vu beaucoup d'étudiants français qui viennent aux États-Unis, et puis j'ai aidé aussi beaucoup de collègues à venir en PhD et puis ensuite avoir des postes aux États-Unis. Ce manque de confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez répandu. Alors peut-être que c'est du côté des jeunes étudiants, voilà, c'est...
Oui, mais les Américains aussi, finalement, sont des jeunes étudiants.
Ouais, c'est vrai, oui, ouais. Mais tu vois, il y a vraiment, par exemple, dans le système éducatif, il y a un truc qui est incroyable. C'est-à-dire que, et moi, j'essaie de mixer les deux, en fait, dans mon enseignement. C'est-à-dire qu'en France, on nous apprend quand même et je dis ça dans le bon sens du terme, mais quand même à régurgiter. C'est-à-dire qu'on nous apprend des choses qu'on doit, et on doit montrer qu'on les masterise, qu'on les comprend, etc. Donc on amasse dans le système français une culture, mais... une connaissance qu'ils n'ont pas du tout dans le milieu américain. Hein. Et ça les surprend beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs, c'est, moi, le fait que je pouvais citer comme ça des lignes de poètes, d'auteurs, tu vois, c'était hyper impressionnant pour eux. Et voilà, alors que bon, beaucoup de gens peuvent le faire, tu vois, en France. Et alors qu'aux États-Unis, c'est le côté créatif, c'est le côté ton avis est important. Ce qui était très surprenant pour moi, c'est-à-dire que nous, on lisait voilà, des livres, même en doctorat, tu vois. On lisait des livres de gens qui avaient reçu le Pulitzer Prize ou le Bancroft, tout ça. Et puis, tu avais des étudiants qui te disaient « Oh ben là, je trouve que franchement, c'est un peu nul. Cette page-là, vraiment, je n'aime pas du tout. Puis je pense que la méthodologie n'est pas bonne, là, vous voyez. Puis alors, quand même, la prose est lourde. » Puis moi, je me disais « Mais... Enfin, ça va, les gars, là.
Mais qui
suis-je pour dire ça, tu vois ?» Ouais. Mais c'est ce qu'on attend d'un universitaire. C'est qu'ils se mettent voilà, au niveau des autres universitaires, tu vois. Mais vraiment, c'est la grande différence, tu sais, que moi, je vois. C'est ça. C'est le fait que, vraiment, aux États-Unis, ton avis, on te demande ton avis, on te laisse le donner et ton avis est important. Même si tu n'as pas toutes les bases, alors qu'en France, c'est plutôt quand même amasser des connaissances qui est important. Et donc, moi, si j'ai peut-être un message à faire passer voilà, aux jeunes Français qui font des études aux États-Unis, c'est justement de mettre ça en avant. Parce que c'est hyper important et c'est hyper valorisé et c'est hyper impressionnant pour les Américains. Puis une autre chose qui revient souvent, et moi ça, c'était une de mes questions quand même aussi, c'est la maîtrise de la langue. Beaucoup de mes collègues me disent « Mais bon, tu vois, moi, voilà, je ne maîtrise pas très bien l'anglais, ni écrit ni parlé. Est-ce que tu crois que je peux faire un PhD, est-ce que tu crois que je peux avoir un poste, etc. » Et en fait, même ça, on ne s'en rend pas compte, mais même ça, c'est valorisé. C'est-à-dire le fait de ne pas complètement maîtriser la langue, mais du coup d'apporter une autre culture, c'est hyper important. Et que, bien évidemment, jamais personne ne va, puisque c'est quelque chose d'illégal aux États-Unis, ne va discriminer en fonction du niveau de connaissance d'une... de la langue, quoi. Ou alors cette histoire...
T'as quand même des examens que tu dois passer pour faire quelques...
Ouais,
pour
ouais,
certains
ouais, bien,
parcours
ouais.
universitaires.
Ouais, et puis surtout...
Le TOEFL en étant un...
Ouais, mais bon, le TOEFL, on l'a tous passé, quoi. C'est quand même...
Il n'est pas hyper compliqué. Voilà. Mais il faut quand même quelques bases d'anglais.
Mais quelques bases d'anglais, je pense que tu peux acquérir voilà, en quelques semaines, quoi. Enfin, je ne sais pas, quoi. Puis il y a d'autres examens, c'est vrai... Que tu dois passer, mais même pour des gens qui parlent très très bien, et même des années plus tard, tu sais, qui sont là depuis des années, me parlent souvent de l'accent. Oh, mais moi j'ai un accent très fort, et bon, quand même, je suis.
Je suis comme pas, un complexe un peu.
Comme un complexe, alors que ça aussi, c'est quelque chose qui est super valorisé ici, c'est-à-dire que voilà, et puis bon, l'accent français, voilà, c'est considéré comme un accent élégant, tu vois, et donc les gens, ça aussi c'est quelque chose qui est très très valorisé, et il y a pas, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, bon, il y a une manière voilà de parler la langue, receive pronunciation, etc. Alors qu'aux États-Unis, voilà, c'est-à-dire moi je le vois tous les jours à Harlem, c'est-à-dire j'entends des gens qui parlent anglais avec plein d'accents différents, quoi. Et ça, c'est valorisé.
Et c'est ce que j'allais dire. Là où tu es et ton domaine professionnel sont aussi des environnements très multiculturels de par leur essence aussi.
Ouais, ouais.
Parce que, je peux dire qu'il y a certains accents, tu te retrouves dans des milieux plus ruraux. C'est comme si tu parlais une autre langue, si tu veux, on reste regardé, alors que tu n'as aucun problème dans certaines villes. Tu es aussi dans une ville très multiculturelle.
Tu as raison de mentionner ça, parce que c'est vrai que, disons que dans un milieu universitaire, ouais, qui par essence tu vois, est souvent multiculturel, etc., c'est quand même assez bien vu. Alors maintenant, pour d'autres domaines et puis pour d'autres endroits aux États-Unis.
C'est ça. Forcément, on n'a pas vécu partout, on ne peut pas tout connaître.
C'est vrai que j'avais vraiment l'impression que les gens me regardaient comme si je, avec un petit accent, comme si je parlais une autre langue. Quoi.
Donc... Ah, moi, ça m'est arrivé. Je me souviens quand je fumais. Et du coup, on s'est arrêté, tu vois, quand on faisait des voyages, genre dans les stations essence pour acheter des cigarettes.
Ouais.
Et les gens, mais c'était... Tu sais, du coup, tu traverses plein d'états. Des fois, tu es dans des grandes villes, on te comprend bien. Et à la campagne, j'aime pas trop le cliché comme ça, mais c'est vrai, en fait. Je pense que dans certaines grandes villes, les gens ont habitude, en fait, d'entendre des accents de partout dans le monde. Et quand tu es dans des milieux un peu plus ruraux, on me regardait, genre... Et à la fin, j'envoyais mon mari.
C'est un truc aussi d'oreille... Ouais, t'as tout à fait
une habitude, hein, je pense, d'écoute. Ouais.
C'est-à-dire que, ouais, et puis je vois même moi, tu sais, en débarquant à New York, c'est qu'à New York, par exemple, les gens arrivent à faire la distinction entre un accent du Bronx, un accent de Manhattan, un accent de Queens, de Brooklyn. Ah ouais. Mais attends, mais moi maintenant, j'y arrive aussi parce que c'était...
Bah,
je
te jure
qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui parlent un anglais que je n'avais jamais entendu avant. Et ça met, je te promets que ça met quand même quelques mois avant de s'y habituer, quoi. Un débit de langue que moi, j'avais jamais rencontré avant, quoi. C'était, mais quand même, en gros, c'est-à-dire qu'il y a, moi, je reviens d'un point de vue universitaire, je pense que pour les Français, voilà, qui veulent faire des études aux États-Unis, souvent, on manque de confiance. Souvent, il y a un manque de confiance, mais c'est parce qu'on ne sait pas vraiment les choses un peu distinctives qu'on apporte dans le système américain. Et quand même, cette grande culture et cette grande rigueur qu'il y a aussi dans le système français, je t'assure que c'est hyper valorisé ici. Ouais. Ils sont souvent « Oh, waouh, comment tu sais ça ?»
Génial. Aujourd'hui, tu continues de travailler pour Johns Hopkins University, c'est ça ? Tu interviens pas mal aussi dans les médias. Tu es pas mal intervenu sur les élections de 2020. Tu parles pas mal de politique et d'identité raciale, notamment pour les médias français. C'est important pour toi, justement, de rester connecté à tes origines françaises et de partager en fait voilà ce dont tu évolues.
Ouais, complètement mais tu sais c'est vrai moi je ça fait presque 20 ans donc que j'habite aux États-Unis mais tu sais j'ai toujours gardé le contact avec la France quoi je me suis jamais vraiment c'est-à-dire que je fais toujours en sorte d'écouter la radio française tu vois et la radio américaine et la télé française
et les podcasts français
et les podcasts français bien évidemment. Donc voilà, oui, j'ai toujours gardé le contact. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma doyenne, en fait, quelqu'un qui travaillait avec ma doyenne à Johns Hopkins, la doyenne de ma division, m'a dit, bon, ça serait bien, vous qui êtes français et qui avez un PhD en histoire américaine, etc., ça serait bien que vous interveniez un peu plus sur les médias.
Vous preniez la parole,
Que vous preniez la parole, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour les universités. Puis au début, j'étais là, je me dis, c'est pas quelque chose qui m'intéressait outre mesure. Mais j'ai commencé à le faire. Et surtout, là, je me suis mis pour le coup, alors ça, c'était quelque chose, je me suis remis pour le coup à écouter les émissions sur la politique américaine, que j'écoutais pas vraiment avant.
Et voir, en fait, les angles d'analyse qu'ils ont là-bas. Ouais.
Et puis là, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment apporter quelque chose.
Ouais.
Parce que non seulement en ayant cette connaissance du terrain, en vivant ici, en ayant fait toutes mes études en histoire américaine et d'avoir le background, mais le background du côté américain, franchement, je pense que je savais que je pouvais apporter quelque chose. Et donc, j'ai commencé. Et donc, bien évidemment, dès qu'il y a des grands événements aux États-Unis, on m'appelle. Et c'est quelque chose que j'aime, qui au début me faisait très, très peur. Parce que bien évidemment, d'intervenir comme ça... en live, à la télé, il y a un côté très stressant.
C'est un nouvel exercice
C'est un nouvel exercice, c'est ça. Et en fait, c'est un nouvel exercice qui, en fait, n'est pas très différent de mon travail. C'est-à-dire que c'est de l'enseignement, tu vois. Et il y a quelque chose qui est... Ça, moi, à chaque fois que je parle à des journalistes, c'est-à-dire qu'on me dit souvent, on est vraiment désolé, mais on sait qu'il faut toujours parler très, très vite et on a 5 minutes pour faire un segment Et en fait, il faut avoir des réponses qui tiennent en 60 secondes, quoi.
Ouais.
Et donc ça, au début, c'était très difficile pour moi. Parce que ouais. Ça, c'est pour le coup, c'est l'inverse de mon travail.
Ce que tu fais au quotidien.
Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a beaucoup aidé parce que les étudiants, en fait, maintenant, aiment beaucoup aussi avoir des petites vidéos ou des petites capsules comme
des
ça,
trucs concis.
Des trucs concis qui s'écoutent en 5 minutes et qui te résument un cours ou un module ou un article. Et ça, c'est un talent que, en fait, j'ai appris grâce à voilà, la télévision, les médias, la radio. C'est un talent que j'avais pas du tout avant et
d'accord.
C'est un talent qui était c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, quoi, d'essayer de livrer comme ça une information assez complexe, en quelques secondes, tu vois.
Ouais.
Et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis surtout voilà de re-rentrer dans le débat français et de voir ce que je peux y apporter.
Ouais.
Là, ça c'est très très stimulant et puis voilà, tu sais bien que voilà, les médias, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est exponentiel. C'est-à-dire que moi, je suis toujours complètement surpris de voir les gens qui me contactent sur Twitter comme ça, qui me disent « mais je vous ai vu à la télé ». Parce que ouais. Moi, je me dis « qui regarde vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ?» Mais bon, oui,
après, ça te rend très accessible, en fait.
Voilà. Mais des gens qui me disent « oui, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en vous écoutant. » Et ça, c'est incroyable. Et si tu veux une petite anecdote,
oui.
Alors, comme je l'ai dit avant, à Harlem, il y a une communauté francophone qui est très, très importante. Et juste la semaine dernière, je devais aller prendre un colis de UPS qui le laisse dans un point relais, voilà, là. Et c'était une petite boutique africaine dans laquelle je n'avais jamais été. Et je rentre dans cette boutique et là, il y a France 24 à la télévision. Et le,
ouais,
gars
comme
dit,
quoi.
Et le gars me dit, France 24, c'est une des télés sur lesquelles j'interviens souvent. Et le gars me dit, ah mais c'est pas vous qui parlez de Trump à la télé tout le temps. Voilà, c'est pas vraiment, je parle pas vraiment de Trump tout le temps. Mais tu vois, et je dis, ah ben mais oui, c'est moi. Ah ben, dis donc, ah ben mine, maman, on vous voit assez souvent, on vous suit, me dit-il.
Excellent.
Et tu vois, c'est un truc incroyable parce que c'est tellement improbable le fait que ce mec-là dans une petite boutique comme ça me disent regarde déjà France 24, je savais même pas, quoi,
c'est surréaliste en plein New York.
Et donc voilà, quoi, c'est quelque chose qui est surtout sur la politique, surtout sur parce que c'est vrai que ici quand tu es entouré d'Américains, tu vois, tu sens des trucs, c'est sûr que tu sens des trucs bien sûr que les gens en France ne sentent pas, quoi, tu vois.
Oui, qu'à distance tu peux pas ressentir,
voilà,
de la même manière.
Et tu peux donner une analyse, tu peux quand même donner des clés aux gens pour comprendre et je me rends compte que voilà, c'est finalement le même métier, ça. C'est un métier d'éducation, quoi. C'est,
ouais.
Et c'est très intéressant pour moi.
Bah, trop bien. Est-ce que un jour tu envisagerais de rentrer en France ou pour l'instant c'est pas vraiment à l'heure du jour?
Mais c'est toujours dans
un coin de ta tête,
dans un coin de ma tête, ouais.
Ah ouais.
Ouais, toujours. Ça m'a jamais vraiment. Je pense qu'un jour, oui, je rentrerai en France. C'est tout à fait une possibilité. Mais tu sais, je veux dire, ça aussi, j'ai entendu beaucoup ça quand même dans le podcast, enfin les épisodes que j'ai entendu. C'est-à-dire que l'expatriation des fois est beaucoup moins dure que
la.
Voilà. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, on y pense, mais en même temps, ça nous paraît quelque chose de difficile. Alors, c'est-à-dire que, parce que c'est vrai que quand on rentre en France, finalement, on n'a que tous les très bons côtés du pays et peut-être pas les plus mauvais. Mm. Bon, là, c'est vrai que, voilà, en ce moment, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup quand même les débats. À la télévision et les débats publics, voilà, c'est une atmosphère assez particulière en ce moment, qui me donne pas très très envie de rentrer. Mais non, c'est toujours quand même
dans un coin
de ma tête. Je pense qu'un jour ça arrivera.
Ouais. Ah ouais, écoute, on suivra ça avec intérêt. Peut-être un jour que tu reviendras nous parler de ton retour en France. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, je te dis un grand merci. Une question un peu traditionnelle que j'aime bien poser pour terminer mes conversations en French Expat, c'est Si tu pouvais donner un conseil au Tristan d'il y a presque 20 ans, qui n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis et qui se disait « Tiens, et si je partais, puisque je suis en fac d'anglais, si je partais faire une année à l'étranger ?» Qu'est-ce que, je sais pas, avec le recul de tout ce qui s'est passé au cours des presque 20 dernières années, qu'est-ce que tu te conseillerais ? Qu'est-ce que tu renforcerais ?
Tu sais, c'est un truc tout simple. Ça va être complètement commonplace, là, mais c'est vraiment sois toi-même. C'est-à-dire, d'ailleurs, je dirais ça à tous les gens qui s'expatrient aux États-Unis.
Ouais.
C'est que je pense que, principalement, alors, les gens qui viennent de France, hein, tu vois. Le fait que ce pays est vraiment un vrai pays multiculturel où toutes les identités voilà, sont les bienvenues, n'essayez pas comme moi j'ai fait par exemple de prendre des accent reduction courses.
Où, t'as pris des cours comme ça,
ah,
c'est
ouais,
vrai.
Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai honte de moi maintenant.
Donc t'as plus d'accent là ?
Non, pas du tout, j'en ai encore.
Ça se perd jamais l'accent aussi ?
Hein, pardon.
Ça se perd jamais complètement l'accent.
Moi, j'ai quand même entendu des gens qui. C'est très impressionnant, mais j'ai quand même entendu des Français qui l'ont complètement perdu.
Ah ouais.
Et c'est super impressionnant ça. Mais voilà, c'est-à-dire restez-vous.
Donc t'as été complexé par ça.
Au début, bien sûr. Puis sur, comme tu sais, au début, c'était très important. Je pensais que c'était très important de parler un anglais qui était letter perfect, tu vois. Mm-hmm. Alors que bon, maintenant, bien sûr, mon anglais est letter perfect, mais bon, ça allait, quoi. De rester soi-même et même de cultiver
cette différence. Ouais.
Parce que, c'est exactement le pays où... c'est exactement la culture où c'est quelque chose qui est très valorisé. Et puis voilà, puis si vous voulez faire des études aux États-Unis...
Il y a de la place pour
tout le monde. La place pour tout le monde, et puis surtout le fait d'avoir cette voix particulière... Ouais. C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Ouais.
Trop bien. Et merci beaucoup pour ce conseil qui pourrait être carrément appliqué par nos auditeurs et auditrices. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, Tristan. Je te dis un grand merci pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble.
Merci.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Tristan Cabello pour cette chouette conversation. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit mot sur Apple Podcasts ou Spotify, par exemple.
Et alors, la semaine prochaine, on parle de quoi ? Eh bien, écoutons un petit extrait.
Et je lisais des forums, est-ce que c'est vrai que la relation, parce que les Québécois, est-ce qu'ils sont comme ça aussi ? Parce qu'ils ont cette réputation d'être gentils, chaleureux, et c'est le cas, hein, vraiment. Et on m'a dit, une dame qui habite ici depuis 30 ans, qui me dit, c'est exactement ça. Tu vas les inviter, mais ils vont pas te réinviter derrière. Et elle m'a dit, en fait, tu te rends compte qu'ils donnent un rendez-vous, mais tu vas aller au restaurant avec eux, ils t'invitent au restaurant, mais en fait, tu payes ta part. Hein. Elle dit, ils vont pas payer ta part. Tu payes ta part, mais ils t'ont invité au restaurant. Et elle a eu des déconvenues comme ça plein de fois. Donc elle dit, moi, j'ai arrêté. Et elle se rend compte qu'au final, son cercle d'amis. C'est plus des gens de l'Europe ou autres qui ont un peu cette même culture que nous, d'autres nationalités pas spécialement françaises, parce que c'est pas du tout la même chose ici.
En tout cas, c'est ça, c'est savoir que c'est pas de la même manière que ça marche. Après, se retrouver au restaurant peut être très sympa,
oui.
Mais voilà, faut savoir que on va pas, c'est sous prétexte qu'on parle la même langue et qu'on porte plus ou moins les mêmes fringues. On ne vit pas de la même manière. Et c'est quelque chose, je pense, qui est super important à dire et à redire, parce qu'il y a quand même beaucoup de déconvenues et de déceptions au début, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.